Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. De plus en plus de pays sont touchés par la crise du coronavirus. Un tiers de l'humanité est désormais confinée. Peu à peu, les métropoles du monde entier sont décrétées villes mortes. Les aéroports internationaux se vident, les trains sont à l'arrêt, les frontières bouclées. Plus de 3 milliards de personnes sont appelées au confinement. Au-delà, force est de constater que la crise non seulement ne parvient pas à faire taire la concurrence entre les modèles, mais qu'elle attise les tentatives de récupération politique. Les États-Unis et la Chine, grands adversaires stratégiques, jouent leur position de leader mondial. Les enjeux sont colossaux. Pékin est en position d'apparaître dans le monde émergent comme la puissance secourable, rôle qui était jusqu'ici celui des États-Unis. La crise peut-elle être fatale à l'Europe ou l'Union européenne peut-elle au contraire en sortir renforcée, mais à quelles conditions? C'est ce que nous allons voir avec nos invités en liaison téléphonique avec notre studio. Bertrand Badie, professeur émérite des universités à Sciences Po, spécialiste des relations internationales. Bonjour.
Bonjour.
Et le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Bonjour.
Bonjour.
La Chine et les États-Unis sont entrés dans une guerre de mots et d'accusations. Les diplomates chinois accusent les militaires américains d'avoir répandu le coronavirus à Wuhan. Plusieurs journalistes américains ont été mis à la porte de la Chine. Trump, de son côté, parle de virus chinois et reproche à Pékin d'avoir nié le problème et refusé de partager les informations. Mais avant d'aborder la question du tournant géopolitique, quel est à chacun votre regard sur la crise, la façon dont elle est gérée, la manière de certains d'en tirer profit, Bertrand Badie?
C'est un apprentissage en direct de la mondialisation. En fait, cet apprentissage, on ne l'a jamais fait. On continue à vivre sur les vieux schémas, à utiliser les vieilles grammaires, à recourir aux vieilles méthodes et aux vieilles pratiques. Voilà plus de 25 ans que le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, nous a expliqué que la vraie sécurité aujourd'hui est une sécurité humaine, c'est-à-dire alimentaire, environnementale, économique et sanitaire. Personne n'y faisait attention. On se croit encore à l'époque du Congrès de Vienne et évidemment, aujourd'hui, pour la première fois, de manière brutale, directe et pire que ça, individuelle, c'est-à-dire chaque individu étant directement interpellé et concerné, on apprend ce qu'est la mondialisation, c'est-à-dire un monde qui est unique. Tout le monde est dans le même bateau, tout le monde est concerné par les mêmes choses. Un monde interdépendant, une poignée de main à Wuhan peut changer le destin ici en France ou aux États-Unis. Un monde d'extraordinaire mobilité, eh bien il faut, si on veut réagir à ce genre de situation éminemment catastrophique, changer notre logiciel, apprendre à agir dans ce nouveau monde, c'est-à-dire comprendre d'abord qu'il n'y a pas d'autre solution que commune et globale, que l'on ne peut pas gérer une crise de cette ampleur et de cette intensité par une addition de décisions souveraines et nationales, qu'on a besoin d'une gouvernance globale. Eh bien, il semblerait que la peur étant la bonne conseillère, certains dirigeants commencent à le comprendre. Est-ce que lorsque la peur sera retombée, ils comprendront encore? Eh bien, quand vous nous réinviterez, chère Marie-France, on en discutera.
Alors, pour la question des dirigeants qui commencent à le comprendre, je reviendrai vers vous, Bertrand Badie. Mais d'abord, Jérôme Pellistrandi, à vous aussi, le regard que vous portez sur cette crise, la façon dont elle est gérée et la manière de certains d'en tirer profit.
Alors effectivement, on peut considérer qu'il s'agit d'un changement géopolitique brutal, c'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19 avec l'obligation d'un véritable état des lieux, c'est-à-dire que là, c'est une épreuve de vérité pour les États, pour les individus, mais pour le monde entier, donc sur tous les plans sanitaires, politiques, économiques, sociétaux. Et pour moi, le terme guerre peut s'y appliquer parce que on ne sait pas quelle va être la durée, quel va être l'impact et quels seront les nouveaux équilibres à la fin. Donc c'est vraiment une crise majeure, profonde, et qui, si elle avait été effectivement, on avait beaucoup travaillé sur les questions de pandémie, est quand même une surprise stratégique qui restera dans les livres d'histoire.
Alors, on va reparler du rapport de force entre la Chine et les États-Unis, mais là aussi, Bertrand Badie, on voit une remise en cause de la mondialisation dont les prémices étaient perceptibles depuis plusieurs années. L'urgence est bien sûr sanitaire aujourd'hui, mais demain, il faudra faire face aux conséquences économiques et sociales. Elle interroge cette crise, les modèles du capitalisme globalisé et fortement déréglementé. Est-ce qu'on peut parler de crise de la globalisation aveugle et est-ce que c'est le début de la fin de la mondialisation ?
Non, absolument pas. Simplement, on a trop tendance à confondre deux choses. La mondialisation comme processus lié aux changements technologiques absolument ahurissants qui ont eu lieu, notamment dans le domaine de la communication, des transports, de la circulation depuis quelques décennies, et la mondialisation comme politique. La mondialisation comme processus, elle est partie pour plusieurs siècles. Je veux dire, on ne va pas abolir Internet, on ne va pas supprimer les avions. Il faut cesser avec cette espèce de fantasme qui égare et qui surtout vient alimenter les démagogues, ceux qui prêchent pour le repli national et des choses de cette nature. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la politique de la mondialisation, c'est-à-dire la manière de la concevoir, de la construire, elle est complètement remise en cause. Mais c'est là justement toute l'équivoque. On a considéré, depuis 1990 et la fameuse école de Chicago, on a considéré qu'il y avait une seule mondialisation, c'était le jeu du marché, le néolibéralisme, le tout économique, et on abolit le social. Et puis pendant qu'on y est, on abolit aussi le politique, parce que finalement, les politiques n'ont pas à avoir de l'ascendant sur le jeu économique et le jeu du marché. Et ça, on voit que ça ne peut plus fonctionner. Qu'est-ce que l'on entend depuis des jours et des semaines? Des appels à un retour de l'État, des appels à un retour des interventions publiques. Le président de la République lui-même parle d'État de bien-être, mot qu'on n'osait plus employer. Et on reparle aussi du retour du social, parce qu'il n'y a pas que l'homo economicus dans le monde. Alors effectivement, on s'aperçoit que la mondialisation va donner aux crises sanitaires une ampleur et une orientation totalement différente de ce que nous connaissions auparavant. Donc, il faut des politiques sanitaires. Et des politiques sanitaires, ça veut dire ne pas nier l'importance que constitue la santé, alors qu'elle avait été complètement mise au placard. On connaît toutes ces grèves que ces malheureux médecins, pendant des années et des années, essayaient symboliquement de porter. Et puis, ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une politique globale de la santé. Il faut arrêter de considérer que l'OMS n'est qu'une machine à nous donner le soir des communiqués dans un anglais approximatif. Il faut véritablement que l'OMS soit le véritable coordonnateur, non seulement des politiques sanitaires, mais également de l'assistance technique aux populations en danger. Et puis enfin, surtout, que l'OMS soit le lieu où on harmonise les normes pour qu'il y ait des normes communes en matière de santé publique. Il y a bien des normes communes en matière d'aviation civile pour que les avions puissent voler. Eh bien là, faisons en sorte que les médecins puissent travailler, c'est-à-dire qu'il y ait une véritable harmonisation normative en matière de santé. C'est effrayant de penser que cette Europe qui, elle, est dans un état de mort cérébrale avancée, en est encore à avoir des Pays-Bas qui sont contre le confinement et la Belgique qui est pour le confinement. L'Europe, c'est fini. C'est probablement l'une des premières victimes du coronavirus.
Alors, on développera bien sûr sur la question européenne. On va commencer par le rapport de force entre la Chine et les États-Unis avec cet échange d'accusations entre les uns et les autres. En 2014-2015, au moment du virus Ebola, on a vu les États-Unis prendre le leadership d'une coalition de pays pour lutter contre la diffusion de la maladie. Rien de tout cela avec le Covid-19. La doctrine de l'Amérique d'abord continue de s'appliquer et on voit les États-Unis incapables de trouver une réponse globale, ne serait-ce qu'avec les Européens. Autre élément de géopolitique, Jérôme Pélistrandi, on voit la Chine et la Russie porter secours à plusieurs pays européens, à commencer par l'Italie. Qu'est-ce que tout cela révèle ?
La machine à propagande fonctionne désormais à plein. Pour la Chine, et en particulier pour le régime, il s'agit de réécrire l'histoire et d'apparaître comme étant la puissance du XXIe siècle. Concernant la Russie, alors il y a quand même un vrai problème d'ailleurs Aujourd'hui, là, j'ai regardé les chiffres, la Russie n'annonce que 1036 cas et 3 décès, ce qui est complètement invraisemblable. Donc la Russie s'efforce de rentrer dans le jeu, alors qu'elle-même va sûrement faire face à l'épidémie dans des proportions que je n'ose imaginer. Donc on voit la machine à propagande parce qu'effectivement, il y a derrière des enjeux idéologiques et à cela se rajoute la démission des États-Unis.
Alors, en 2014-2015, au moment du virus Ebola, les États-Unis avaient pris le leadership d'une coalition de pays pour lutter contre la diffusion de la maladie. Rien de tout cela avec le Covid-19. La doctrine de l'Amérique d'abord continue de s'appliquer et on voit les États-Unis donc incapables de trouver une réponse globale, ne serait-ce qu'avec les Européens. La Chine, qui porte secours à plusieurs pays européens, on a vu ces mêmes pays européens secourir la Chine en janvier. Tout cela s'est fait probablement de façon beaucoup plus discrète que ce que la Chine cherche à mettre en avant aujourd'hui. Pékin, qui par ailleurs met en avant l'efficacité, la supériorité de son système, est-ce que l'avantage géopolitique vous semble tourner au profit de la Chine, qui par ailleurs va apparaître dans le monde émergent comme la puissance secourable, rôle qui fut jadis celui des États-Unis? Est-ce que cette crise du Covid-19 est un vrai chamboulement géopolitique, Bertrand Badie?
Vous savez, ma réticence de parler de géopolitique est aujourd'hui plus qu'hier. C'est-à-dire que si on s'entête à raisonner en termes classiques, et notamment de compétition de puissance, on ne voit pas l'histoire se dérouler. Bien sûr qu'il y aura toujours cette dimension. C'est incontestable qu'il y aura toujours une volonté de s'affirmer, de s'afficher, de donner une image de soi, et cela parallèlement, voire au détriment de l'autre. Mais l'essentiel n'est plus là, l'essentiel est dans l'interdépendance. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire traiter, comme l'a fait M. Trump, le virus de virus chinois, pour essayer d'en faire un élément qui vient alimenter la rivalité Pékin-Washington, n'a absolument aucun sens. Il ne faut pas oublier une chose qui est absolument centrale dans la crise que nous traversons actuellement, c'est que la Chine a besoin des marchés occidentaux. Et c'est dans cet esprit qu'elle agit actuellement. Elle n'a absolument aucun intérêt à ce que cette crise majeure chez nous devienne apocalyptique. Elle en serait indirectement la victime, comme nous avons été victimes de la première étape de la crise du coronavirus. Donc c'est en ces termes qu'il faut raisonner, c'est en ces termes que certains contacts sont pris. Il y a eu un contact, si j'ai bien compris, téléphonique entre Emmanuel Macron et Xi Jinping. Il y en a entre les différents responsables du G7 et probablement maintenant du G20. C'est pour comprendre ce qu'interdépendance veut dire. Alors évidemment, si vous voulez absolument que l'on repasse les plats de la géopolitique, il va se passer dans la sortie que nous espérons tous de cette crise quelque chose de banal. C'est-à-dire le premier qui en sera sorti aura l'ascendant sur les autres. Pour l'instant, il semble que la Chine soit dans cette position alors qu'elle était entrée la première dans cette crise. Si elle en sort la première, elle va avoir un ascendant sur les autres qui seront encore, sinon au tapis, du moins en extrême difficulté. Mais ça, c'est l'écume des choses. C'est l'écume des choses et il faut s'habituer. Maintenant, c'est fini, ces histoires de géopolitique. Il faut s'habituer à penser en termes d'interdépendance. Sinon, c'est bien simple, nous ne survivrons pas.
Jérôme Pellistrandi.
Je suis tout à fait d'accord. À cela se rajoute un vrai problème de fond avec les États-Unis qui est, la personnalité du président Trump. C'est-à-dire qu'aux difficultés auxquelles la planète est confrontée, on rajoute une administration Trump complètement débordée. Là, aujourd'hui, les États-Unis sont le premier pays en termes de malades désormais devant la Chine. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir aux États-Unis, d'autant plus que les États-Unis sont en campagne électorale. Donc là aussi, une incertitude politique qui se rajoute à la crise. Et effectivement, pour la Chine, il est clair qu'il est extrêmement important que les circuits économiques redémarrent. Et donc Pékin n'a pas intérêt à ce que l'Europe et les États-Unis s'enfoncent davantage dans la crise. On est par contre là confronté à l'évolution de la maladie en termes cliniques.
Alors, on reviendra sur l'Europe. Bertrand Badie, l'Afrique est un continent qui va être touché dans quelques semaines avec cette crainte d'une grande inégalité des États face à la pandémie. Est-ce que les risques de tension vous semblent forts ?
C'est effectivement l'un des enjeux majeurs, probablement des prochains jours, des prochaines semaines, parce que l'un des aspects de la mondialisation, c'est qu'une inversion se fait. Le monde ne dépend plus de la puissance, il dépend de la faiblesse. C'est la faiblesse qui risque de perturber tout ce mécanisme d'interdépendance qu'on décrivait tout à l'heure, beaucoup plus que la puissance. Or, on sait que l'Afrique, qui est déjà un continent de souffrance, a un équipement hospitalier et sanitaire encore inférieur à celui qui se détériore ici sur le vieux continent. Donc l'arrivée d'une crise du coronavirus en Afrique risque d'avoir, pour nos amis africains d'abord, mais pour le monde entier, un effet extraordinairement grave. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ça veut dire qu'on n'a absolument rien compris. On n'a pas compris que le danger principal du monde, c'était la faiblesse des plus pauvres, des moins équipés. Qu'il fallait, et depuis longtemps, prendre au sérieux la question de la sécurité sanitaire en Afrique. Vous évoquiez le rôle des États-Unis dans la lutte contre Ebola. Peut-être, mais Ebola, ça nous était égal parce que ça ne nous concernait pas. Le paludisme, il y a 200 millions de personnes dans le monde en paludé. Ça nous est égal parce que ça ne nous concerne pas. Ainsi, on est en train de découvrir tout ce que l'on ne comprenait pas jusqu'à présent. Et là, la faute de la classe dirigeante est terrible parce qu'elle ne pourra jamais dire qu'elle ne savait pas. C'est des choses qui sont écrites dans le rapport du PNUD de 1994. On l'a traité par le mépris. Voilà maintenant qui paye. Le mépris de ces personnes qui se croyaient au-dessus des transformations du monde.
Le danger du monde, c'est la faiblesse des plus pauvres. Jérôme Pellistrandi, la question de l'Inde se pose aussi.
Oui, effectivement, parce que l'Inde découvre avec retard l'ampleur de la pandémie, qu'ils viennent de prendre effectivement la décision de confiner la population, mais on est sur des échelles qui sont colossales, 1 milliard 200 millions d'habitants. Donc là aussi, ça va être quelque chose d'extrêmement difficile. Et on rajoute le fait que la pesanteur administrative en Inde, qui est la contrepartie du système démocratique, va peut-être encore accentuer les difficultés. Je voudrais rajouter quand même un point sur l'Afrique qui est assez intéressant à observer, c'est que même si je partage tout à fait l'avis de Bertrand Badi, il se trouve, en parlant justement d'Ebola, qu'en Afrique centrale et on dirait équatoriale, les services de santé qui certes sont très déficients ont tiré beaucoup de leçons d'Ebola. Certes, la vague va être terrible, mais les médecins ont déjà une culture et j'espère que ça pourra leur permettre de mieux appréhender donc les jours et semaines à venir.
Bertrand Badi, quelques mots pour conclure. Malheureusement, 20 minutes, c'est évidemment très très court pour un sujet comme celui-là. La question de l'Europe, quels sont les risques?
Je dirais les risques qui sont derrière nous parce que l'Europe a montré que c'était fini. C'est-à-dire que où on imagine un acte 2 de l'Europe et peut-être aurons-nous de bonnes surprises, ou alors c'est terminé. L'Europe a été incapable de répondre. Rappelez-vous la première intervention catastrophique de Madame Lagarde. Et de toute façon, quelle que soit sa responsabilité, c'est aussi l'écho de ce qu'est la réalité du phénomène européen aujourd'hui. Alors, une réflexion, peut-être avec une petite lueur d'espoir. La première Europe, elle est née après la guerre parce qu'on a eu très peur lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'on ne voulait pas que cela recommence et qu'on avait besoin de se reconstruire. Aujourd'hui, l'Europe n'existe plus, mais on a très peur et il va falloir reconstruire. Alors peut-être que dans les mois, les années qui viennent, le même déclic que celui qui avait conduit au traité de Rome de 1957 va s'opérer et on pourra faire repartir. Mais alors, il faudra penser quelque chose de tout à fait différent.
Alors, Jérôme Pellistrandi, sur l'Europe et en guise de conclusion.
Peut-être que là, ça va obliger l'Europe à se réformer. Et une chose est sûre, c'est que les citoyens, quels que soient les pays, eux vont demander des comptes à nos dirigeants.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Jérôme Pellistrandi, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Et Bertrand Badi, professeur émérite des universités à Sciences Po, spécialiste des relations internationales. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Nathalie Laporte, Tania Tsikounas. À samedi prochain. Priorité santé.